Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 116.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Si vous habitez ici dans l'Amérique du Nord, vous êtes dans la neige, enlisée peut-être comme moi. J'habite en ville et apparemment, mon père de 80... Quel âge il y a? De 80 ans, oui. Me disait que c'était un record d'accumulation de neige, presque un record de tous les temps. Mais bon, c'est... ici en ville, ça nous affecte pas parce que c'est toujours déneigé, mais c'est sûr que j'imagine que ça doit être quand même assez beau aussi si vous êtes en région et si vous voyez les amoncellements et si surtout vous profitez de l'hiver comme je ne suis pas une grande sportive d'hiver. Donc, si vous êtes une sportive d'hiver, je suis sûre que vous êtes aux anges de voir, de vivre cet hiver-là. Bref, comme la neige a neigé. OK. Hey, pourquoi pas un petit caméo d'Émile Néligan, le poète québécois, justement. Alors qu'aujourd'hui, on parle de créativité, justement, et d'entrepreneuriat. Je pense que ça va être un épisode quand même assez court parce que c'est des questions que je continue à me poser et j'avais envie de vous partager les réflexions que j'ai autour de ça. La créativité, la productivité, puis l'entrepreneuriat à travers tout ça, parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai l'impression que, oui, j'étudie beaucoup tout ce qui est autour de l'ambition féminine, autour de tout ce qui est la création de valeur, la codification de la valeur, tout ce qui est la communication de la valeur aussi, notamment à travers les outils du web. Mais il y a une grande partie de qui correspond à mon champ d'études aussi, et c'est tout ce qui a lien avec notre pouvoir créatif, notre pouvoir créateur. Et plus j'analyse et plus je vois aussi le genre de personnes qui sont attirées par mon travail puis par mon univers, plus je vois que quelque chose qui nous rapproche souvent, c'est que on est toutes des âmes créatives qui ont dû parfois trouver des façons de vivre et de survivre dans un monde dans lequel on a mis des muselières sur cette créativité-là et on a dû comprendre comment continuer à utiliser cette créativité d'une façon qui va pas être simplement perçue comme un hobby ou pas être simplement perçue comme une perte de temps, mais vraiment arriver à productiviser cette créativité-là d'une certaine façon. Et comment, parallèlement aussi, nous, esprits créatifs, parfois, on est bloqué par cette insistance, justement, à devoir être productif. Et à travers ces réflexions-là sur la productivité et la créativité, ben, tu sais, on en ressort avec tout un tas de réflexions autour, le cycle de production, hein? Qu'est-ce que c'est le cycle dans une entreprise? Qu'est-ce que c'est le cycle dans un emploi? Puis pourquoi beaucoup de personnes, hein, beaucoup de femmes, si vous écoutez ça, vous êtes peut-être une femme ou une personne qui a été socialisée comme femme, me disent souvent qu'une des raisons pour lesquelles elles ont quitté le marché de l'emploi, c'est qu'elles n'arrivaient pas à vivre une vie suffisamment créative ou du moins à exprimer cette créativité-là. Puis même des personnes qui ont laissé leur emploi, commencé leur entreprise et en sont arrivés à un certain niveau de succès vont venir vers moi puis me dire « j'ai perdu la flamme, mon entreprise ne me ressemble plus, je n'arrive plus, tu sais, je me sens pas le même intérêt pour celle-ci que j'avais au début, je me sens maintenant que je suis prise dans cette machine de productivité-là qui représente pas nécessairement la raison pour laquelle j'étais rentrée dans ce domaine-là, justement. » Fait que, tu sais, toute cette recherche autour de la créativité, ça peut avoir l'air d'être quelque chose, ah, les entrepreneurs créatifs, d'une part, mais pour moi, plus j'avance, plus je réalise que l'entrepreneuriat en soi est une pratique créative. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, notamment dans mon expérience, ben ça m'a permis de faire la paix avec beaucoup de parties de moi qui essayaient justement de se trouver une place. Hein, c'est parties de moi qui avaient besoin d'écrire, c'est parties de moi qui avaient besoin de communiquer, c'est parties de moi qui avaient besoin d'exprimer des choses différentes, d'expérimenter, de jouer, de... Tu sais, c'est partie de moi qui avait besoin d'esthétique, qui avait besoin de se sentir bien dans son environnement. Et ces parties-là, ben, c'est souvent cet appel-là de mon esprit créatif qui revenait et qui revenait. Puis tu sais, si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez, bon, moi, j'ai étudié longtemps, jusqu'à la mi-vingtaine, hein, je m'en allais au doctorat en littérature et je suis une autodidacte dans plusieurs domaines artistiques, mais notamment la musique. Je jouais de multiples instruments sans jamais avoir pris de cours ou quoi que ce soit. Et t'sais, l'écriture a toujours été une forme d'art que je préconisais, et la peinture et tout ça. Et quand je suis arrivée sur le marché du travail, il y a eu une coupure complète avec ma créativité et avec cette connexion que j'avais avec moi-même, parce que là, soudainement, c'était comme, quand est-ce que je trouve le temps pour créer? Quand est-ce que je trouve le temps pour faire ces choses qui sont, entre guillemets, inutiles à mon avancement personnel ou professionnel? Et ça a été... j'étais encore salariée quand j'ai commencé à voir que ça me manquait énormément et que j'ai commencé petit à petit à réintégrer la créativité dans ma vie, hein, puis... Je le faisais vraiment de façon systématique. J'étais allée dans un cours qui s'appelait peinture créative ou quelque chose comme ça, genre où c'était pas nécessairement d'apprendre des techniques, mais vraiment de laisser exprimer ce qu'il y avait à exprimer, qui était complètement bloqué dans ma vie. Et à quelque part, Aime ta marque était un véhicule à travers lequel je m'étais consciemment dit... Je veux apprendre à retrouver ma voix, moi qui ai toujours écrit. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai modelé mon écriture vers quelque chose qui était très académique. Et là, j'avais envie de retrouver cette voix-là que j'avais peu à peu perdue parce que j'avais été encarcanée, encabanée dans un type de production, un type de productivité qui était... de rigueur dans le domaine dans lequel j'étais, mais qui était déconnecté d'une partie de moi qui avait besoin justement de s'exprimer. Donc, c'est intéressant de voir que l'entrepreneuriat, à quelque part, a eu un genre de rôle à jouer dans ma reconnexion avec la créativité. Et plus ça avance, j'ai l'impression que plus je suis capable de gérer cette énergie créative que j'ai, plus je suis capable de trouver les rythmes de mon entreprise, plus je suis capable de trouver des façons de communiquer qui sont inventives avec mon public, mais aussi plus je me sens moi-même dans ce que je crée, dans la grande œuvre que je suis en train de déployer à travers mon entreprise. Donc, ma prémisse de l'épisode d'aujourd'hui, c'est justement ça, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, est une pratique créative. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a plusieurs des choses qui sont requises dans une pratique créative qui sont également requises en entrepreneuriat. Puis là, quand je dis... C'est important de mentionner que je dis pratique créative parce que selon moi, il y a une notion très importante dans la pratique qui est quelque chose de concret, qu'on fait avec nos mains, à quelque part, hein, quelque chose qui va se matérialiser dans le monde, au lieu de simplement parler de la créativité at large, qui est simplement, bon, une notion presque spirituelle, ou c'est une notion ou c'est une aptitude à laquelle tout le monde a accès. Hein? Tout le monde a accès à un certain degré de créativité, mais en faire une pratique créative, c'est autre chose. Une pratique créative, ben, ça demande de l'engagement, ça demande de la persévérance, ça demande de s'asseoir toutes les X nombre de jours pour justement, bon, faire sa calligraphie ou apprendre des nouvelles techniques d'aquarelle ou pratiquer son violon. Tu sais, vous comprenez ce que ça veut dire, là, une pratique. Hein? C'est quelque chose qu'on perpétue à travers le temps et dans lequel on s'engage. Donc, pour moi, je vois l'entrepreneuriat comme une pratique créative parce que, justement, une des premières caractéristiques de la pratique, ben, c'est que ça demande, comme je viens de le dire, un engagement, une persévérance, hein, un commitment, comme on dit en anglais, qui implique qu'on va s'atteler à la tâche jour après jour après jour, malgré le fait que peut-être l'évolution est très incrémentielle et parfois imperceptible. Hein? Puis cette persévérance-là à travers showing up, comme j'aime dire souvent, showing up jour après jour, showing up dans son entreprise quand on est en train de la bâtir, mais aussi quand elle est en train d'évoluer, apprendre ses méthodes, justement, de ou c'est avoir cet amour de l'œuvre qui nous permet de s'engager sur le long terme, c'est quelque chose qui, pour moi, correspond autant à l'entrepreneuriat, à l'entrepreneur, qu'à l'esprit créatif. Aussi, l'entrepreneuriat, tout comme la pratique créative, demande une certaine vision. Une vision, puis ici, je parle pas nécessairement genre « c'est quoi ton but dans 5-10 ans », mais vraiment une vision dans le sens une perception, hein, perceptivité, une capacité de voir. Et je me suis mis ici dans mes notes une capacité de voir qui est à la fois introspective, donc à l'intérieur de soi. Hein, quand je vous parlais de mon cours de peinture plus créative, ben, tu sais, l'important, c'était de voir, ben, est-ce que j'ai une envie? Est-ce que j'ai une couleur qui me vient? Est-ce que j'ai un geste qui me vient? Puis ça venait de l'intérieur. De la même façon, en entrepreneuriat, on a des idées, on a des projets qui nous habitent. Et extrospective. C'est pas vraiment un mot, là, mais je voulais dire introspectif, extrospective, bon, c'est pas un mot, là. Puis il y a une raison pourquoi, parce que c'est vraiment difficile à dire, mais qui vient de l'extérieur. Et cette vision-là extrospective, comment moi je le conçois, c'est que on est aussi capable de percevoir ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient des autres, ce qui vient de la communauté. Et donc, un artiste ou une personne créative va être capable, oui, de suivre ce qu'il y a en soi, mais aussi d'entendre ce que les critiques vont dire, ce que les mécènes vont dire, ce que les collègues ou ce que les personnes dans le même milieu vont faire. Tu sais, il y a comme une conscience de l'environnement externe aussi, qu'on retrouve naturellement en entrepreneuriat où on doit servir des clients, où on doit travailler avec un public et où on n'est pas dans un silo complètement coupé du monde. Hein. Fait qu'il y a cette vision-là dans le sens perception, connaissance, qui va du soi vers les autres et des autres vers le soi. Et je pense que c'est quelque chose qui rejoint les deux pratiques. Aussi, il y a cette conception de la maîtrise et du plaisir, hein, parce qu'une pratique artistique, une pratique créative, la raison pour laquelle on continue à le faire, c'est qu'à quelque part, il y a un plaisir qui est accompagné de cette volonté de maîtriser son art, de devenir meilleur, d'être capable de jouer une musique beaucoup plus difficile ou d'improviser alors qu'on n'avait pas beaucoup d'informations ou des choses comme ça. Et ce plaisir-là, il est dans un genre de difficulté qu'on est capable de outrepasser. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, ben il y a la même dynamique. Hein? Puis là, quand on dit maîtrise, ben on maîtrise pas seulement notre expertise, mais on maîtrise aussi notre connaissance de notre audience, notre connaissance de nos clients. et notre connaissance de l'environnement dans lequel on est, puis aussi notre habileté à être de meilleurs leaders, de meilleurs visionnaires, de meilleurs gestionnaires, tu sais, toutes ces choses-là qu'on développe en étant entrepreneur. Naturellement, c'est des difficultés qui se mettent dans notre chemin, mais ces difficultés-là procurent énormément de plaisir. Puis finalement, ben, l'entrepreneuriat, tout comme la pratique créative, implique des risques. Puis quand je dis risque en créativité, hein, je ne sais pas si vous avez déjà été devant un tableau complètement blanc sur lequel vous deviez tracer la première ligne, mais il y a une angoisse qui vient avec quel sera mon premier geste, quel sera mon deuxième geste, et quand est-ce que j'ai fini le tableau, même qu'à certains moments, on se dit « je sens qu'il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, laisse-moi mettre cette tache de couleur à cet endroit, sachant que peut-être je vais complètement gâcher ma vision ». Puis ce risque-là, ben j'ai pas besoin de vous l'expliquer en entrepreneuriat, vous savez c'est quoi le risque de devenir entrepreneur, non seulement par rapport à notre quotidien, mais aussi quand on commence à grandir, quand on prend des décisions qui impliquent pas juste nous, mais d'autres personnes, etc. Donc, on oublie souvent, je trouve, que l'entrepreneur a comme matière première cette créativité. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, souvent on va distinguer entre créativité et productivité. Et j'irais même jusqu'à dire que de nos jours, et c'est l'héritage de toute l'industrialisation et le capitalisme et toute cette notion de productivisme, hein, où la grande valeur était toujours à créer davantage, extirper davantage, extraire davantage des ressources. La créativité, d'un autre côté, est une ressource qui crée. Une ressource dans sa définition même, qui est quelque chose qui va toujours se régénérer. La créativité est hors temps. Elle n'a pas une date limite, elle n'a pas une spécificité dans l'espace-temps. La créativité aussi est hors économie, même sans le régime économique dans lequel on est, la créativité existerait. Même si on était dans un régime économique complètement différent, elle est présente et elle est la maîtresse de tout ce qu'on met au monde. Et la créativité travaille à un niveau immatériel, travaille au niveau des pensées. Et la pratique créative nous permet ensuite, ou l'expertise, hein, dans certains cas, ça va être pratique créative qu'on peut aussi parfois même définir comme expertise, va nous permettre de concrétiser ces choses, de matérialiser ces choses. Puis je trouvais ça intéressant de parler de ça parce que souvent, ce qui se passe, puis je parlais à une de mes anciennes clientes dans Money Brand, salut Elodie si tu écoutes ça, qui, elle, travaille avec des artistes qui veulent commercialiser ou qui veulent devenir entrepreneurs, hein. Mais je trouve ça intéressant de réfléchir à l'entrepreneur comme créateur parce que souvent, on va réfléchir au créateur comme étant à l'extérieur de l'économie, comme par exemple les grands scientifiques, hein. On imagine qu'ils créent, qu'ils sont au service de l'humanité parce qu'ils mettent leur pouvoir de pensée, leur pouvoir de réflexion que leur allégeance est vers cette pensée, cette réflexion, cette esthétique, cette volonté de créer du neuf, de créer du nouveau. Mais à quelque part, on les voit comme des êtres des fois sacrifiés au modèle économique, qui doivent vivre sans le sou, qui doivent être malheureux parfois parce que ils sont pauvres ou ils sont non reconnus ou ils vont être reconnus seulement genre plusieurs années après leur mort. Et quand l'artiste s'intègre dans un contexte plus économique, ben là, on va avoir parfois, bon, ben, l'autre tendance qui est de les idolâtrer ou de les idéaliser comme c'est, je sais pas moi, comme des superstars ou comme des, tu sais, comme des vedettes, qui les empêche d'avoir parfois ben, accès à leur créativité pure. Parce que comment est-ce qu'on peut être un individu créatif et avoir une allégeance à sa vision et sa créativité et tout de même être une personne en chair et en os qui a besoin de manger et de se loger et tout ça, tu sais. Donc, je trouvais ça intéressant parce que l'entrepreneur, naturellement, il n'est pas du tout en dehors de l'économie, mais tout comme l'artiste qui propose des nouvelles façons de voir le monde et de le comprendre, l'entrepreneur propose des nouvelles façons d'interagir avec le monde. Et j'ai dit interagir parce qu'encore une fois, il peut créer des nouveaux produits, il peut créer des nouveaux modèles d'affaires, il peut créer des nouveaux types d'expertise. Mais même si c'est pas un travail de connaissance, ça reste, tout comme l'artiste, un travail de compréhension du monde, de ses besoins et des opportunités qui sont là. Donc, c'est drôle parce que, à quelque part, l'entrepreneur est un artiste productif. Parce qu'il crée à partir de sa vision un élément qui va fonctionner dans les modèles économiques, hein, qui va fonctionner dans le monde. Même si on s'entend, hein, il y a beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs qui vont rater certains de leurs projets, hein, tu sais, qui ces projets-là ne seront pas viables sur le long terme. Et ça fait partie de la game, tout comme, encore une fois, ben il y a des artistes qui vont faire des œuvres qui sont considérées des chefs-d'œuvre et d'autres qui vont être beaucoup moins qui vont moins accrocher les gens, puis d'autres qui vont faire des... Bon, bref. Puis je trouve ça intéressant de voir l'œuvre d'un entrepreneur qui, bien... Oui, ça se peut qu'il y ait simplement une business, mais bien souvent aussi, des entrepreneurs vont avoir créé d'autres entreprises, vont avoir eu d'autres projets connexes, vont avoir trempé leur pinceau un peu partout... tout comme l'artiste peut expérimenter et créer une œuvre qui va peut-être... Tu sais, il y a des artistes multidisciplinaires ou des artistes qui vont expérimenter avec plusieurs styles ou plusieurs matériaux, plusieurs matières avant de trouver leur voie. Et je trouvais qu'il y avait ce parallèle-là à faire aussi. Et quand on arrive à rejoindre créativité et productivité dans l'entrepreneuriat, c'est là que je pense qu'on a le potentiel de changer les choses, de changer le monde, de créer des nouveaux paradigmes, de créer des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de travailler, de recruter, de rendre service, de recevoir de l'argent, de transiger. Et c'est pour ça que j'aime ça dire que pour moi, ben l'entrepreneuriat, c'est un geste féministe, et c'est un geste féministe parce qu'il est créatif de nouveaux mondes. Il est créatif de, bon, par exemple, genre, qu'est-ce qui arrive si on ne travaille plus selon les cycles de productivité qu'on a toujours établis et qu'on commence à travailler selon les cycles lunaires, par exemple, ou les cycles biochimiques ou des cycles biologiques. Puis je trouve qu'il y a ce genre d'expérimentations qui sont faites parce que l'entrepreneuriat permet de faire ce genre d'expérimentation. Je donne en ce moment, je suis en plein dans le programme que j'ai créé avec Julie Terrien qui s'appelle « Trouve ton flow de créateur ». Et là, on parle beaucoup de création de contenu, mais je trouvais ça intéressant parce que dans un des appels que j'ai donné aux participantes, j'ai parlé de... transformer la vision transactionnelle de l'entrepreneuriat et adopter une vision créatrice. Parce que la vision transactionnelle, où c'est comme je dois créer quelque chose, hein, je dois créer une business, je dois créer un produit, et la réussite de ce produit va déterminer si oui ou non j'ai perdu mon temps, si j'ai de la valeur, etc., ben elle est pas mal anxiolytique, hein, elle crée de l'anxiété. Mais quand on voit l'entrepreneuriat et les projets qu'on lance et tout ça comme faisant partie de notre esprit créatif, de notre rôle créateur, ben là, à ce moment-là, on est capable de valoriser différemment le rôle de l'entrepreneur dans la société qui va mettre l'accent sur le processus au lieu du produit final, hein, parce qu'il y a une infinité de possibilités de créer des œuvres, des entreprises, des produits, etc., Il n'y en a pas juste une. Il n'y en a pas juste une qui va fonctionner. La preuve est, on pourrait avoir la même entreprise exactement et les deux ne vont pas avoir les mêmes résultats à la fin de l'année. Bon, on a parlé de la maîtrise, puis la voie vers la maîtrise hein, que l'entrepreneuriat nous permet genre d'engager, à comment devenir meilleur, comment s'engager envers soi-même, mais aussi l'entrepreneuriat veut pas implique qu'on a une confiance dans cette source infinie de créativité et de savoir. Puis tu sais, ça c'est une des grandes transformations que j'ai eues dans ma vie, ça a été de voir comme le moment où j'ai arrêté de penser que j'étais définie par mon rôle ou par ma profession ou par mon titre professionnel ou peu importe, à ce moment-là, j'ai arrêté d'angoisser à propos de l'argent parce que je sais que dans une panoplie de circonstances, des aptitudes que j'ai développées pour en arriver là où je suis vont me permettre de créer autre chose, éventuellement de m'adapter à certains milieux, de vendre certaines de mes expertises, etc. Et donc, ça m'a ouvert la source infinie, la source abondante de mes propres capacités, mais aussi des opportunités qui vont pouvoir s'offrir à moi. Et enfin, l'entrepreneuriat, c'est une expérience autant sur soi que sur les autres, parce que cet acte d'entreprendre, c'est ce qui nous connecte à notre humanité. Puis ça nous connecte à notre humanité parce qu'encore une fois, on doit apprendre à connecter aux autres. Et pour connecter aux autres, ben notre outil de connaissance premier, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nos interactions, notre écoute, notre vision, nos ressentis, nos blessures, tu sais, toutes ces choses-là qui nous amènent à être amenés à créer pour les autres. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est complètement... qui est le lien, justement, entre cette créativité et cette productivité-là qui n'a pas besoin d'être valorisée dans un contexte... tu sais, il y a eu des entrepreneurs à l'époque romaine comme il y en a aujourd'hui. Tu sais, le système capitaliste n'a pas besoin d'être la source de la réflexion autour de cet entrepreneuriat-là. Le système de valeurs auquel on adhère, par contre, ça va de plus en plus l'être. Et c'est là que je pense que les entrepreneurs ont un grand terrain de jeu, un grand tableau à travers lequel ils peuvent aller expérimenter des nouveaux modes de réflexion sur la valeur. Ah, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Peut-être la dernière chose sur laquelle je voulais vous laisser, puis une chose à laquelle je pense beaucoup, c'est que, tu sais, mon entreprise, c'en est une parmi de multiples possibilités. Et quelque chose à laquelle je pense souvent, c'est que elle me permet de bâtir mon œuvre, tu sais, mon leg. Et ce leg-là, il est à la fois, tu sais, je le lègue à mes clients à chaque fois que je travaille avec eux, je le lègue à mes auditeurs quand vous m'écoutez dans mes podcasts, je le lègue à travers mes écrits, je le lègue à ma fille à travers le capital et à travers l'exemple que je donne, tu sais. La façon dont je vis mon entreprise ou dont je la conçois, comment je la construis, devient une partie de mon œuvre. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que là, c'est là qu'on est capable d'aller connecter ces parties-là à différentes étapes de notre vie puis de notre propre processus comme faisant partie du collectif. OK, je sens que c'était quand même assez dense comme épisode. Curieuse d'avoir vos ressentis, vos réflexions et naturellement, ben, de continuer hein, ce travail avec vous, cette réflexion avec vous. Voilà. Fait que les entrepreneurs, des créateurs, des artistes, les artistes productifs. Pourquoi pas? Bonne journée et on se parle très bientôt. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial,
qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'expert et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si t'es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité ». Pour envoyer ta candidature, c'est facile, rends-toi sur aimetamarque.com/moneybrand. Je répète, aimetamarque.com/moneybrand.